Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La bonne santé économique des États joue-t-elle un rôle dans le développement des libertés publiques ? Si l'on observe la situation du Moyen-Orient, on peut dire, sans se tromper, que les révoltes de 2011, de la Tunisie à la Syrie, en passant par l'Égypte ou la Libye, ont toutes des racines liées à des économies chancelantes. La situation explosive dans le Rif marocain ou la fuite des jeunes diplômés algériens en sont d'autres exemples. Mais la globalisation des échanges et la nouvelle connectivité numérique laissent-elles des marges de manœuvre aux États ? C'est le débat que nous vous proposons avec nos invités Farah Hached et Raouf Boussekine, dans une émission qui a été enregistrée en public au Théâtre de la Criée à Marseille dans le cadre des rencontres à Véroès et qu'Orient Hebdo a diffusé une première fois en décembre dernier. Avec nous pour en parler dans ce studio éphémère installé en public au Théâtre de la Criée à Marseille dans le cadre des 24e rencontres à Véroès, nous recevons Farah Hached. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, militante de la société civile. Vous avez notamment fondé à Tunis, après la révolte populaire de 2011, le Labo Démocratique, une association qui a pour but de contribuer à l'instauration et à l'enracinement d'une démocratie innovante et vivante en Tunisie. Et puis Raouf Boussekine, bonjour.
Bonjour.
Professeur des universités à Aix-Marseille, dont vous dirigez l'Institut d'études avancées. Vous avez été également conseiller économique et même membre de sa task force du premier ministre algérien Abdelmalek Sellal. C'était entre 2015 et 2017. Alors, Raouf Boussekine, la situation sociale aujourd'hui en Algérie est-elle difficile parce que la situation économique est délicate, notamment en raison d'un cours du pétrole extrêmement bas?
Ce serait évidemment inutile de le nier. Il y a de vraies difficultés sociales en ce moment. Et ces difficultés ne viennent pas seulement maintenant, elles durent depuis un certain temps, d'ailleurs de façon concomitante avec ce qui s'est passé en Tunisie. Lorsqu'il y a eu les révoltes en Tunisie, il y a eu le même type de révolte en Algérie en janvier 2011 pour le prix du sucre. Alors ce qui s'est passé en plus en Algérie, comme vous le savez, c'est un pays dépendant des ressources pétrolières. Il y a eu le fameux contre-choc de juin 2014 qui a divisé les ressources du pays par deux. Donc en dépit de cela, on a quand même, je dis on a parce que j'ai participé un peu de près à ce genre de choses, il y a eu quand même la volonté de garder un niveau de dépenses sociales très élevé. Donc on est quand même, quand on regarde les transferts en Algérie, c'est à peu près 20% du PIB. Donc la coupe sur les revenus pétroliers n'a pas été appliquée proportionnellement au niveau des transferts sociaux. Néanmoins, ce qui pèse le plus en Algérie, plus que ces dépenses, c'est l'incertitude politique, parce qu'il y a une relève en 2019, relève à préciser, on verra. C'est ça qui pèse le plus en vérité.
Mais aujourd'hui, on a le sentiment que les jeunes Algériens, notamment ceux qui sont bien formés, peinent à trouver du travail, peinent à s'insérer dans la vie économique du pays et donc cherchent à partir.
Non, mais là, en l'occurrence, il faut relativiser un tout petit peu. Le problème du chômage des skilled, c'est-à-dire des gens qualifiés, est un problème typique de la région MENA. Il y a les gens qui arrivent au niveau de l'université et qui après ne trouvent pas de boulot. Le problème, le champion du monde dans ce domaine, c'est la Tunisie, où le niveau de chômage des qualifiés, des universitaires, est supérieur à 30% à l'époque de la Révolution. Évidemment, c'est ça qui est à la racine de ce qui s'est passé en 2011. La différence entre la Tunisie et l'Algérie, c'est que l'Algérie est riche, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est créer des emplois aidés par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'ANSEJ, l'Agence Nationale pour l'Emploi des Jeunes. Ce n'est évidemment pas une solution pérenne. Et c'est pour ça que je vous dis que tout ce dont on est en train de parler est évidemment à tenir en compte. Mais le plus dur reste à venir, parce que avec l'inversion de la transition démographique en Algérie, ce qui n'est pas le cas de la Tunisie. La Tunisie a maintenu sa transition démographique. L'Algérie a repris en croissance démographique, plus l'affaiblissement des moyens de l'État dû au contre-choc pétrolier. Le problème est de plus en plus aigu.
Farah Hached, l'économie de la Tunisie, on en parle, on vient de l'évoquer brièvement, elle n'est pas fameuse, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment. Un déficit budgétaire chronique, une forte dépréciation du dinar et donc, par voie de fait, une dette publique qui devrait atteindre 69% du PIB en 2017. On était à 39% en 2010, donc un gap important. Cette situation menace-t-elle, selon vous, la fragile stabilité politique du pays ?
Clairement. Je pense qu'elle fragilise beaucoup le pays et elle fragilise beaucoup le processus de démocratisation, en fait. Les gens ont commencé cette révolution pour des questions économiques avant tout, et sociale, parce que le niveau de vie était en train de baisser, mais en même temps, il y avait cette corruption et on voyait cet accaparement de l'argent public, etc. Et finalement, on va être l'année prochaine en l'an 8 de la révolution. Et qu'est-ce qui a changé pour les gens ? Enfin, il y a des choses qui ont changé, hein, d'un point de vue politique, c'est indéniable. Mais économiquement, concrètement, ce qu'ils attendaient, est-ce que quelque chose a changé ? Je pense que beaucoup de gens doutent de ça. Et du coup, disent c'était mieux avant, à la limite, un régime autoritaire, c'est mieux que la démocratie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la démocratie si l'économie n'est pas bonne ? Donc oui, ça fragilise beaucoup, beaucoup le pays. Enfin, c'est très difficile le pouvoir d'achat des gens et c'est très très difficile. Ce qui augmente aussi l'insécurité nécessairement. Puisque plus un pays est en difficulté économique, plus les jeunes deviennent des délinquants. Donc ça aussi, ça peut être une fragilisation de la stabilité.
Et puis il y a aussi une différence entre le Nord et le Sud. Le Nord qui est peut-être mieux loti, le Sud qui peine à émerger et avoir des emplois et des revenus.
Disons que le modèle de développement qui avait été mis en place avant la révolution et qui devait être interrogé, peut-être que nos gouvernants n'arrivent pas à trouver les solutions. Qu'est-ce qu'on doit interroger et vers où devons-nous aller ? Quel modèle de développement ? Bien sûr, personne n'a une baguette magique. C'est facile de dire il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela quand on n'est pas nous-mêmes au gouvernement. Mais ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il y a aussi une instabilité gouvernementale du fait du système politique qui a été mis en place. Alors, je ne suis pas contre le système politique mis en place, système parlementaire, etc. Je ne suis pas contre du tout. Mais tel qu'il est aujourd'hui, il crée de l'instabilité gouvernementale parce que plusieurs partis doivent se coaliser ensemble pour pouvoir être au gouvernement. Et cette instabilité fait qu'un ministre ne va pas rester longtemps dans son ministère et donc ne peut pas faire des réformes effectives.
Mais est-ce que l'on peut mener de front une politique démocratique comme celle qui est menée aujourd'hui en Tunisie et que beaucoup de gens veulent montrer en exemple, en tout cas dans cette région, et aussi une nouvelle politique économique. Est-ce que c'est possible de faire les deux ?
Moi, je pense que c'est possible. Disons que il y a des ajustements à faire. D'abord pour avoir une stabilité gouvernementale, non pas au niveau du régime politique, mais au niveau du scrutin, au niveau du mode de scrutin, la façon dont on élit le mode de scrutin, tout simplement, pour avoir une majorité claire qui soit responsable de ces réformes. Aujourd'hui, nous n'avons pas une majorité claire qui a cette responsabilité et qui reste dans le temps. Donc ça, on n'a pas. Et s'il y avait une telle majorité qui a cette responsabilité-là de ces réformes, alors oui, il pourrait y avoir des choses. Parce qu'on ne peut pas non plus attendre des résultats d'une réforme en un an ou deux ans. C'est impossible, hein, donc premièrement. Deuxièmement, si on avait une stabilité gouvernementale, une meilleure stabilité gouvernementale, les interlocuteurs des syndicats serait plus crédible aussi, c'est-à-dire que il faut pas oublier la place des syndicats dans cette relation en fait parfois houleuse avec le gouvernement et notamment en ce qui concerne les réformes, la mise en place de certaines réformes. Donc s'il y avait une stabilité gouvernementale, il pourrait y avoir un dialogue beaucoup plus constructif avec les syndicats, parce qu'il y en a qui souhaitent tout simplement vraiment fracasser les syndicats pour avoir le chemin ouvert pour les réformes. Ce n'est pas du tout ça la solution. La solution, c'est d'avoir ce dialogue constructif.
Alors même question, Raouf Boussekine, concernant l'Algérie. Est-ce que une certaine stabilité politique peut aller de pair avec un développement économique ? L'Algérie, c'est plutôt un certain immobilisme politique, semble-t-il, aujourd'hui.
Justement, alors il faut faire attention au concept de stabilité. Je vous fais beaucoup de warnings depuis le début, mais bon, le concept de stabilité a été invoqué, mais c'est souvent l'argument qu'on met en avant pour dire, pour se développer économiquement, pour avoir, il faut de la stabilité. Le problème, c'est que c'est un argument qui peut être utilisé par ceux qui sont au pouvoir pour garder encore plus. Donc, il ne faut pas l'utiliser de façon déconnectée du contexte. Hein, c'est assez important. Le développement économique de l'Algérie n'est pas tellement tributaire de la stabilité ni de quoi que ce soit. En vérité, il est tributaire de la stabilité, évidemment, des dispositifs économiques. Parce que si vous lancez une réforme à la date T, et vous en supprimez l'essentiel des dispositions, comme ça a été le cas il y a quelques mois, à la date T plus 2. Et évidemment, ça ne permet pas d'avoir des perspectives heureuses. Mais j'insiste sur le fait que La situation actuelle en Algérie requiert un autre type de stabilité qui est celui du dynamisme. C'est le dynamisme aussi crée de la stabilité. Là, on est en train de nous enferrer à des choses qui ne mènent absolument à rien.
Alors justement, n'y aurait-il pas eu une désindustrialisation massive de l'Algérie lors de ces 25 dernières années, dirait-on, qui pourrait expliquer que l'économie aujourd'hui n'est pas en très bonne forme?
Il y a une désindustrialisation de fait. C'est-à-dire qu'en Algérie, dans les années 80... D'ailleurs, à l'époque du premier contre-choc pétrolier de 86, l'industrie comptait pour 20% du PIB. On est maintenant aux environs de 5%. Donc il y a une désindustrialisation de fait qui est due simplement au fait que les circonstances ont fait qu'avec la manne pétrolière qui est arrivée dans les années 2000, c'est un prix de baril à près de 105-110 $. Là, on en est à 60 et on est très heureux. Ça a plongé jusqu'à 25-30 en janvier 2016. Donc, on était dans un environnement où le prix du pétrole était tellement élevé qu'il y a eu une espèce de glissement de l'économie vers les services marchands, vers l'importation. C'est le mal absolu.
C'est le mal absolu, absolument.
Mmh. Ça a pris des proportions invraisemblables. C'est-à-dire que l'économie est devenue rentière. La société est devenue rentière.
Est-ce qu'aujourd'hui, les sociétés, les pays du sud de la Méditerranée ne sont pas tributaires finalement des grandes organisations internationales comme le FMI, comme la Banque mondiale?
Oui, ça ne sert à rien de le nier, c'est la réalité. Nous sommes en Tunisie endettés jusqu'au cou, c'est un fait. Et même certains font le parallèle avec 1869, c'est-à-dire au moment où la Tunisie était vraiment très endettée, où il y a eu ce qu'on appelle la commission financière. C'est la commission où il y avait la France, l'Italie et je ne sais plus quel autre pays qui a commencé à gérer, ou enfin à surveiller nos comptes publics parce qu'on était trop endettés. Et finalement, quelques années plus tard, on s'est retrouvé colonisé, enfin, avec le protectorat. Donc, il y a des gens qui font le parallèle, qui disent avec cet endettement, on va droit dans le mur. Ces dettes ne sont pas sans contrepartie. Et la contrepartie n'est pas uniquement financière. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement des taux d'intérêt. La contrepartie aussi, c'est des réformes. Parfois de très bonnes réformes, quand il s'agit de liberté, etc. Parfois, au niveau économique, on peut être d'accord ou pas d'accord. Ça dépend des appartenances, comment on voit le modèle de développement en Tunisie. Donc, les réformes en général auxquelles on nous incite, ce sont des réformes très libérales. Donc, à quel prix aussi? Donc, ça aussi, c'est une question.
Vous avez tout à fait raison. Elle a décrit assez bien la situation de beaucoup de pays arabes. Alors, il se trouve qu'en Algérie, nous ne voulons pas du FMI. En tout cas, nous avons des rapports où on peut prendre un peu de hauteur. Et pourquoi? Parce que nous avons 102 milliards de dollars de réserves et nous avons même prêté 5 milliards de dollars au FMI. Donc, le FMI va faire une visite là ces prochains jours à Alger. Nous avons, par rapport au FMI, une position beaucoup plus libre. Et nous ne voulons pas, justement, il y a eu un traumatisme dans les années 90 lorsqu'ils sont passés privatisation. Enfin, le discours, les recettes habituelles. J'ai eu le plaisir assez rare, je crois que Madame Farah va me comprendre assez vite, de jouer au tir au pigeon avec les recommandations du FMI qui arrivaient au bureau du Premier ministre. Et j'étais chargé de répondre. Mais comme c'était assez creux et assez convenu, n'importe quel économiste aurait pu faire ce job. Alors, nous pouvons nous le permettre parce que nous avons ces 102 milliards de dollars, mais naturellement, si on veut pas un jour retomber dans le filet de ce type d'organisme, il va falloir faire des réformes. Et il faut pas s'arrêter juste à garder le trésor qu'on a accumulé.
Est-ce que les problèmes économiques des États de cette région ont une influence directe sur le type de pouvoir qui est développé par ces sociétés? Est-ce que le fait d'avoir une mauvaise économie, une économie en difficulté, impose forcément qu'il y ait ensuite des États forts, comme on dit en général?
En fait, ce ne sont pas des États forts, ce sont des États faibles. C'est-à-dire que c'est parce que l'État est faible que les dictatures prennent de la place, justement, parce que l'État est fragile. Si l'État était fort, il n'y aurait pas de dictature. Enfin, c'est mon point de vue. Oui, bien sûr, le fait que on soit, à nuancer, le fait qu'on soit en voie de développement, parce que c'est ça, nous sommes en train de nous développer avec les difficultés qui sont les nôtres, au point de vue des ressources, au point de vue de notre géographie, et au niveau aussi de nos liens géopolitiques internationaux, etc. Donc, et ça, ce sont des vraies difficultés. On ne peut pas demander à la plus belle femme du monde de donner que ce qu'elle a, comme on dit. Donc, quand on a un budget limité, on ne peut pas mettre beaucoup d'argent dans les hôpitaux, beaucoup d'argent dans les écoles, etc. Donc, nécessairement, tout cela a des conséquences. Et les gens, ce qu'ils veulent, ce sont des choses concrètes, tout de suite. Alors, le problème, c'est qu'en fait, sous le régime précédent, ce n'était pas non plus génial. Juste qu'on avait une autre information. C'est-à-dire que les médias, l'information qu'on avait, c'était que tout allait plutôt bien. Mais en réalité, tout n'allait pas bien du tout. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence du passé. Si tout allait bien, en 2011, on aurait trouvé des choses géniales. Mais ce n'est pas le cas. Donc, en réalité, la dictature, tout ce qu'elle fait, c'est de masquer la réalité, de créer tout un discours genre 1984, guerre égale paix, etc. Donc, les gens vont être séduits parce qu'ils vont être rassurés. Mais nous, en tant que société civile en tout cas, notre devoir c'est de les alerter, de leur montrer que ce n'est pas ça la solution.
Raouf Boussekine, vous qui êtes économiste, vous pensez que la voie de l'économie peut permettre aussi de débloquer des situations difficiles au niveau politique ?
Le problème c'est que les solutions ne viennent jamais par l'économie. Les solutions viennent d'abord par des réformes politiques structurelles, profondes. Espérer qu'un rebond du pétrole à $120 dans les prochains mois va régler la situation algérienne est une hérésie. Non, ce qu'il faut, c'est faire de vrais changements politiques, une vraie libéralisation politique. Ce qui n'a pas marché en Tunisie, je reviens juste sur la Tunisie, c'est un cas intéressant, c'est que en 2011, juste lors de la révolution, ce pays était classé 55e dans le classement Doing Business de la Banque mondiale sur 183. C'est un pays qui était loué par tout le monde, protégé par les Français, par l'Occident, excusez-moi de dire les choses comme ça. Il n'empêche que ce type de classement ne prend pas compte du fait que une grande partie de la rente a été captée par des clans. Et donc ça se retrouve pas sur les. Et donc ce qu'il faut, c'est la libéralisation politique. Il n'y a pas eu de compétition politique en Tunisie. Elle a été complètement escamotée par les clans au pouvoir. Donc l'économie ne règle absolument rien. Il faut de la libéralisation politique avant tout.
Un dernier mot, Farah Ached, concernant votre association Labo Démocratique, qui milite pour l'accès aux archives de l'Ancien Régime et leur préservation, ainsi que pour le respect des libertés démocratiques. Mais justement, votre association a-t-elle les moyens financiers de son objectif et ou doit-elle faire des concessions liées aux difficultés économiques justement du pays ?
Non, on n'a pas les moyens. Voilà, pour être clair, c'est parce que justement, on a refusé d'avoir les moyens. C'est-à-dire, on a été exigeant sur les bailleurs de fonds. Donc, surtout qu'on travaille sur des choses assez sensibles. Donc, on ne voulait pas prendre les fonds de n'importe quel bailleur de fonds et puis après qu'on nous accuse d'être à la solde de je ne sais pas quel, de la CIA ou de je ne sais plus qui, etc. Donc, on a été très exigeant.
Ça va être indépendant.
Voilà. Et même si moi, je pense franchement qu'on peut prendre l'argent de Open Society tout en restant indépendant. Nous avons des collègues de la société civile, des associations qui prennent l'argent de Open Society tout en étant complètement indépendant. Mais étant donné que certains peuvent penser qu'on peut ne pas être indépendant, nous avons préféré ne pas aller vers ça. Donc on a de l'argent, nos bailleurs de fonds en général, c'est le PNUD, donc Nations Unies, c'est aussi les Suisses, la coopération suisse, voilà l'UNESCO, on a eu l'UNESCO, voilà. Et puis beaucoup de bénévolat surtout, et beaucoup d'argent des membres surtout. Voilà.
Merci Farah Ached. Je rappelle que vous êtes juriste, militante, spécialiste des libertés fondamentales, et que vous avez donc créé cette association Labo Démocratique en Tunisie. Merci également à Raouf Boussekine. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, directeur de l'Institut d'études avancées à l'Université de Marseille. Ce numéro particulier d'Orient Hebdo a été enregistré par Bertrand Eclair en public au Théâtre de la Criée à Marseille dans le cadre de la 24e édition des rencontres AVROS et réalisé par Mathias Golchani. Vous pouvez le podcaster sur notre appli Pure Radio, également le réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Dans un instant, le journal.